Bonjour, Radio G, effectivement cet après-midi en direct du quartier des Chênaies. Le quartier des Chênaies se trouvant du côté de Montplaisir, ou plus particulièrement des Banchets. Et il se passe donc une manifestation avec tout un quartier, des associations. Et autour de moi, il y a toute une équipe de Radio G. Alors à la technique, il y a Julien. Nous avons aussi le président JP, on a Guy, on a Pascal et Fulvio. Voilà, donc tout ce genre-là pour venir travailler autour de ce projet. Et en face de moi, l'instigateur de cette manifestation, monsieur Vincent Livou. Et bonjour Vincent.
Bonjour, bonjour.
Donc Vincent, explique-nous comment t'es venu l'idée d'organiser cette journée.
Alors, comment dire ? C'est vrai que dans l'idée, ce que je voulais, c'était préparer quelque chose, en fait, une activité, une animation, en fait, avec mes locataires. Et en fait, de cette idée est venue, en fait, l'envie de présenter, en fait, mes locataires. C'est-à-dire, en fait, de mettre en avant, en fait, toutes les origines culturelles, en fait, qu'il y avait aussi dans la résidence, et les auto-entrepreneurs et associations aussi, quoi.
Oui.
Voilà. Et
donc,
puis.
Oui, aussi, déjà. Une raison pour que ça devienne encore plus convivial, je suppose, hein, qu'il y ait un échange culturel, mais aussi entre voisins, tout simplement.
Oui, voilà, c'est ça. Créer. L'idée, c'est de créer vraiment du lien avec les gens, et puis aussi les, comme il y a beaucoup d'origines aussi culturelles ici, les gens les connaissent pas forcément, et les mettre en avant et évite aussi certains conflits. Voilà.
Tout à fait. Et moi, ce que je constate de l'extérieur, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont très occupés dans ce quartier, qui sont dans plein d'associations ou qui ont des activités très intéressantes. Peux-tu nous dire un petit peu ce qui nous attend aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, donc, on va présenter pas mal de cultures, pas mal aussi d'auto-entrepreneurs, donc dans la résidence, des associations aussi, des locataires qui participent à des associations, donc en fait ils sont aussi présents aussi avec nous, et on a aussi un petit tournoi de palais aujourd'hui, et donc bien avant aussi, il y a un mois de ça, donc j'ai préparé aussi un peu en amont un concours artistique, c'est-à-dire en fait que les locataires viennent avec une œuvre, un dessin, une peinture, un poème ou même une musique qui me les présente, et puis celui qui aura la meilleure note, on va dire, gagnera une petite coupe. Voilà.
Et en plus, il y a des concerts.
Et oui, effectivement, oui, c'est ça. Il y a un concert, donc, effectivement, de l'ONPL, l'Orchestre National des Pays de Loire, qui ouvre, en fait, les festivités, en fait, de la journée. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut les entendre d'ici.
Oui. On entend d'ici un petit peu, oui.
Et ce soir, le concert de Max Vanker, donc qui viendra aux alentours de 18h30, 19h. Et aussi une petite parade aussi de l'association anti-Guyane-Anjou, donc qui viendront aussi faire la parade dans le parc.
Et je crois qu'il y a une troisième mi-temps. Après, les gens se retrouvent un petit peu autour d'un verre ou...
Oui, effectivement, oui, c'est ça. Le repas partagé, oui.
Non, mais c'est sympa, parce que ça se termine comme ça.
Oui, voilà, ça se termine en apothéose, on va dire. Chacun ramène ce qu'il a envie, et puis on partage tous ensemble le repas.
Merci, donc on espère que le temps sera avec nous. Pour l'instant, ça tient.
Ouais, hein, pour l'instant, ça tient, c'est bien, c'est pas mal.
Et puis je crois qu'on se retrouvera tout à l'heure pour que tu nous parles de la culture Vong.
Exactement, la culture Vong, ouais, je vous présenterai ma culture.
Merci, alors. On va se faire une petite pause musicale en attendant les prochains invités.
Merci.
Together, play football and cricket as one brother. Now to your rest, a jungle, and you might block a rima. You are gonna fight against your brother. That no right, my sister. Let us all live as one. Yeah. Throw away your gun, throw away your knife. Let us all unite. Everyone is living in fear. Just through this, believe.
En direct avec donc trois personnes, trois associations. Si je ne me trompe pas, nous avons l'association des régies de quartier. Nous avons... Non ? Ah bon, bah alors les bons chers en tout cas.
Oui.
Voilà. Et nous avons aussi la mémoire du site de Thompson. Donc nous allons commencer d'abord par la régie de quartier. Mais il y a deux questions qui seront communes pour les deux associations. Donc pour... Déjà, on va dire comment vous avez eu l'idée de créer votre association, tout simplement.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je n'ai rien créé. L'association Régie de Quartier a été créée, pensée et imaginée par les habitants.
Bien.
Grâce à un collectif d'habitants, suite à des soucis de logement à Roubaix, il y a très longtemps. Et ils se sont tous mobilisés pour dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre quartier. Donc voilà comment est née la régie de quartier d'Angers, c'est par des habitants.
D'accord. Et l'association des Banchets ?
Eh ben, la réponse va être un peu similaire. Ce sont des habitants qui s'étaient réunis en 1989, si je ne dis pas de bêtises,
ouais.
Et qui avaient créé l'association. Donc nous, on y est pour rien, techniquement.
En fait, vous pourriez faire une fusion, tous les deux.
Ah, c'est différent comme mission.
Oui, mais pas exactement la même mission. Mais justement, on va parler de vos missions juste après. Et puis pour Thompson ?
Ouais. Oui.
Alors, comment s'est créée cette association ?
Bah, la Thompson, c'est pas les citoyens du quartier qui l'ont créé, c'est les anciens salariés de Thompson.
Bien sûr.
Quand on a vu que le site avait fermé en 2012, on s'est dit, on peut pas laisser partir un site comme ça, il faut qu'on garde une mémoire industrielle de cette ville. Puisque la ville d'Angers était à une époque la première ville électronique de France. C'était clair. Depuis, on n'a plus rien. Et avec quelques-uns, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on a créé une association. L'association pour la valorisation du... Ça y est, j'ai perdu. Du site de Thompson.
Du site, oui.
Donc on l'a créé, on a à peu près une petite centaine de personnes aujourd'hui, et on veut, entre guillemets, s'imposer dans le débat, pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi du site. Le but de l'opération, c'est que la partie prod, la partie la plus ancienne, qui a été construite dans les années 50, puisque le site a tout ouvert en 57, Thompson est venu sur Angers, à l'époque c'était Thompson Oskitch Brandt, et comme on sortait d'un deuxième conflit mondial, ils ont dit, le site, il faut qu'il soit capable d'équiper du matériel de l'armée. Donc, il a été construit de telle manière qu'on pouvait équiper des chars. Donc, le bâtiment principal est hyper solide. Donc, pour l'abattre, ça coûte. Et le but de l'opération de notre association, c'est de garder l'ensemble de cette partie de production, ça veut dire 24 000 m2, et quelque part que ce soit le centre du village, entre les Banchets, les Chênais et...
Grand Pigeon.
Grand Pigeon,
oui,
merci.
Pigeon, ouais.
Voilà, c'est parce que... C'est pas médisant, mais il n'y a pas grand-chose dans le quartier. C'est-à-dire que quand le site a été construit, on a fait des bâtiments autour, et chaque quartier s'est construit dans son coin, mais sans lien les uns entre les autres. Et c'est là que c'est un peu dommage. Parce que quand on a fait quelques débats avec les personnes des Banchets, on s'aperçoit qu'il y a un besoin de lien. Et si le site peut servir à ça, sur 24 000 m2, on peut mettre plein de choses dedans.
Ah, exactement.
Parce que à Lui, par exemple, ils ont gardé le satire de Lui, et dans Lui, il y a aussi des restaurants, des sites d'associations et tout ça. Je crois qu'à Brest, ils ont fait à peu près la même chose sur un site de l'armement.
Mais on peut imaginer, pourquoi pas un musée, un parcours mémoire ou... Ou un espace culturel. Hein.
C'est à peu près ça qu'on va remettre sur 24 000 m2. Puis après, honnêtement, je fais confiance à la population pour qu'on puisse équiper les 24 000 m2.
Très bien, parce que vous avez, en quelques mots, vous avez résumé toutes les questions que j'allais vous poser.
Trop fort.
Je suis mauvais. Hein. Donc, non, mais en plus, on ne fera pas sans la population, on fera avec eux. Ce site est important. Je sais que plein de gens se posent des questions sur ce site, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et il y a ceux qui disent on abat tout, soit qu'il faut qu'on garde une mémoire. Oui. Parce que la ville d'Angers, c'était une des rares villes de ces grandeurs où tous les sites industriels qui fermaient, on abattait. Puis après, on mettait des maisons autour, bah oui, des bâtiments.
C'est ce qu'on craignait, d'ailleurs.
Quand je dis ça, c'est quel que soit le régime qui était à la tête de la ville. Hein. Quand je dis le régime, oui. C'est quel que soit les tauliers. Voilà. Maintenant, je sais qu'on a rencontré le maire d'Angers là-dessus. Il n'y a pas d'opposition de la ville. Oui. Je crois que la ville, il y a ce site qui appartient à l'agglo. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du site? Oui. Que de démolir un site qui est fait pour équiper des chars, il faut abattre. Et là, ça va coûter la...
Ouais. Cher.
Mais justement, peut-être que l'association des Bonchets et la régie des quartiers va peut-être aussi donner son point de vue. Hein. Par la suite, avec les habitants.
On sera honnêtement obligé de travailler avec tout le monde. Ouais. Notre siège est au Bonchet, parce qu'on ne pouvait pas aller plus près. Et avec l'association des Bonchets, on bosse bien. On a déjà fait un débat avec... Deux soirs, le 28 et 29 mars, on a fait des débats avec la population. Honnêtement, passionnants, des débats passionnants. Puis en plus, quand on retrouvait vos anciens collègues, tout.
Bah voilà, c'est ça.
C'est des moments charmants.
Mais moi, je suis un ancien du quartier, j'habitais du côté résidence Pasteur, vous voyez, par là. Ouais. Et donc, je passais régulièrement devant Thompson. Ouais. J'allais voir mes grands-parents rue d'Isoray. Vous voyez, c'est à côté.
C'est un site qui a plein d'histoires, donc on se les luttes. Ouais. Et en plus, j'étais 33 ans là-dedans. Et entre guillemets, leader syndical. Et quelques luttes de mémoire, voilà.
Bah, j'imagine.
Quelques luttes.
Très bien.
Mais bon. On travaillera avec tout le monde et on aura besoin de tout le monde de toute façon.
Bon, c'est bien, on a bien parlé de Thompson, je suis bien content parce que c'est pas facile de vous lier tous les trois. On va parler un petit peu plus spécifiquement des autres. Alors, le régie de quartier, pouvez-vous nous dire un petit peu comment se passe votre quotidien? Quelles sont les demandes des personnes? Quel est votre travail? Combien vous êtes dans votre entourage, dans l'équipe?
On emploie à peu près 120 personnes.
Ah, quand même.
On est au total entre 70 et 180 le mois. Et on voit à peu près 200 à 300 angevins dans l'année qu'on accompagne sur des parcours à l'emploi. Nous, notre but, la régie de quartier d'Angers, c'est d'améliorer le cadre de vie à travers l'emploi, mais également à travers la transition écologique dans les quartiers. Mmh. On parle de tri des déchets, on parle de jardins en pied d'immeuble, on parle d'économie circulaire, voilà, tout ce qu'on peut voir, ouais. Médiation énergie, etc. Et ce qui fait vivre nos missions et le fait qu'on soit là, c'est grâce, par et pour les habitants. Ici, on a, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, on intervient pour animer les petits espaces potagers qui sont juste en pied d'immeuble. Et on a des habitants qui nous suivent depuis 10 ans. Et c'est chouette.
C'est chouette, ça, ouais.
Au quotidien, c'est chouette.
Ouais.
C'est un vrai défi, mais c'est superbe.
C'est bien parce que je pense que les Angevins ne savent pas ce qui se passe ici et je ne suis pas certain que ça se passe comme ça dans tous les quartiers. Mmh. Hein. Mmh. Effectivement. Et alors, donc justement, les Bonchets, comment pouvez-vous parler de votre association et puis de votre quartier, tout simplement?
Donc, l'association des Bonchets, une association d'habitants, et nous, on est principalement là pour leurs loisirs et les occuper. Donc, on est ouvert toute l'année, en semaine. On n'a pas de temps de pause, on est ouvert pendant les vacances scolaires, pendant les périodes scolaires. Qu'est-ce que je peux vous dire? On fait de l'accompagnement vers l'emploi, mais du coup on réoriente vers nos collègues et nos partenaires, parce que c'est pas nos missions principales. Notre association est divisée en plusieurs secteurs. Donc on accueille d'abord l'enfance au centre de loisirs, de 4 à 11 ans. Ensuite on a un secteur jeunesse, où on va les accompagner dans leurs loisirs jusqu'à leurs 17 ans. Ensuite, il reste sur la jeunesse, mais jusqu'à 25 ans, où là justement on va orienter que ce soit sur le social, le logement, l'emploi, leur donner des idées et les accompagner encore plus vers l'autonomie, pour qu'ils profitent encore des loisirs et de leurs vacances. Et derrière, ils passent sur le secteur adulte ou famille. Tu veux en dire un petit peu plus? Parce qu'il y a ma collègue de la famille qui est à côté de moi.
Oui, vous avez la parole.
Bonjour à tous. Hop. Donc oui, il y a le secteur famille adulte qui vous accompagne tout au long de l'année. Sur la parentalité, sur l'accompagnement en logement, sur toutes les situations auxquelles vous pouvez faire face en famille ou en tant qu'adulte individuel aussi. Voilà, on a...
Mais vous travaillez 60 heures par semaine?
À peu près, voire plus.
Beaucoup plus, on multiplie par 16 et puis après on est bon. Et hop, merci Clémence. Je voulais dire un truc, ça m'est sorti de l'esprit. On est la plus petite maison de quartier de la ville d'Angers.
Ah oui.
Et là, on peut faire le lien avec Thomson, justement. On est consulté, on a consulté les habitants sur tout ce qu'ils avaient envie, parce que notre cœur de travail, c'est de répondre aux besoins des habitants. Et du coup, nous aussi, monsieur le maire est venu chez nous en nous disant de quels espaces on aurait besoin. Parce qu'on essaye de faire beaucoup, mais dans vraiment peu de locaux. Et là, justement, avec Thomson et tout cet élargissement du quartier, ce serait une possibilité de pouvoir proposer plus de choses.
C'est ce que je pensais, parce que quand vous avez présenté votre activité et tout ce que vous faisiez, pour moi, ce site de Thomson pourrait être un lieu pour vous, enfin, une partie, bien sûr. Mais...
Et il y a le contre-coup, il y a aussi les habitants qui sont attachés à cette petite asso qui est vraiment une maison au cœur du petit quartier. Mais en vrai, notre territoire d'action, il s'étend jusqu'à Espace Anjou, au Grand Pigeon, jusque sur Montplaisir, vraiment tout ce qui est au-dessus de la voie de chemin de fer.
Oui, donc vous avez de quoi vous occuper, franchement. Hein. Ben, c'est bien. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette journée organisée par Vincent?
Alors, nous, ça nous parle beaucoup. On côtoie, alors pas chaque année, mais à peu près 50 nationalités, dont mon collègue Yavish et Léna qui ont préparé une super exposition sur le Congo. Et je vous conseille d'aller le voir. Et bah, du coup, ça reflète tout à fait la couleur de la régie.
Tout à fait. On vous remercie, bien sûr, de votre accueil et puis de votre présence donc pour cette interview. Et puis, on vous souhaite une bonne journée.
Je vous remercie également.
Et bon courage pour tous vos projets, on va dire. Hein.
Merci beaucoup.
Ils sont importants.
Merci. En plus, on sera appelé à se voir, de toute façon.
Tout à fait.
Avec plaisir.
Tout à fait.
Ouais.
Merci.
Everything I ever felt, dead my body's dead inside, and there's no standing trees left. But I'm not one just trying to put my mind in order with my soul.
Avec deux autres associations. On a d'abord l'association Parole Croisée et l'association Sourire d'Automne. Donc, on va commencer par Parole Croisée. Vous venez nous dire exactement en quoi consiste votre projet et comment s'est créée votre association.
Alors, notre association s'appelle Parole Croisée autour de la mort. Et le but, c'est d'aller au-delà du tabou. On n'ose jamais parler de la mort. Et il s'avère que, en fait, beaucoup de gens ont besoin d'échanger sur ce sujet, que ce soit au niveau du deuil, au niveau des obsèques, au niveau de la fin de vie. Et donc, on a créé cette association en 2022. avec différentes activités pour toucher le plus grand nombre de personnes possible, que ce soit des conférences, des rencontres lectures, des cafés mortels, des ciné-rencontres, toujours avec dans l'idée de croiser les paroles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de professionnels, mais ce sont des citoyens qui parlent entre eux de ces sujets-là.
Très bien, donc vous arrivez comment à ouvrir une discussion sereine autour de ces sujets, parce que c'est pas si évident.
Non, c'est pas évident, mais en fait, on a un cadre très précis, c'est-à-dire que quand on fait par exemple un café mortel, on réunit d'abord très peu de personnes, une dizaine de personnes, et on fait attention à ce que chacun puisse s'exprimer s'il en a envie, mais si quelqu'un veut se taire, il se tait, à ce que chacun respecte la parole de l'autre, quel que soit le témoignage qui est évoqué, et également la confidentialité, c'est-à-dire que on peut parler de ce dont on a, ce qu'on a évoqué, mais on ne dit pas telle personne a dit ceci, telle personne. Voilà, donc ce respect de la confidentialité est vraiment primordial, et aussi le respect de la parole des autres. Et en fait, quand les gens sortent d'un café mortel, ils disent tous « Oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait du bien ?»
Oh ben, c'est bien, si vous voulez les rassurer et vous les conforter, c'est voilà. Bien.
Donc le fait d'en parler, en fait, ça libère certaines choses. Il y a des gens qui disent « Ah ben j'ai jamais parlé de ça en famille parce que j'ose pas, et là j'ai osé dire des choses que j'ai jamais dites à personne. »
Est-ce que vous avez aussi des questions sur leurs droits, sur la fin de vie ?
Oui, bien sûr. Oui. Ah ben oui. Alors nous, on a aussi des commissions, et on a en particulier en ce moment une commission sur la fin de vie qui suit le débat parlementaire et qui en même temps apporte des informations. Il y a eu aussi auprès de nos adhérents des concertations pour que chacun puisse s'exprimer sur comment il voit la fin de vie, qu'est-ce que devrait être la loi, etc.
Alors, je vais terminer sur une question très personnelle. Est-ce que le fait de parler de tout ça avec eux, ça a changé votre propre regard sur la mort ?
Oui, complètement. Alors, en particulier sur la fin de vie, parce que on a quelquefois des personnes qui témoignent de choses auxquelles on n'avait pas pensé, qui ont eu des comportements, par exemple, pendant les obsèques, qui ont fait des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et on se dit, ah ben oui, pourquoi je ferais pas la même chose, en fait? Et oui, c'est très, très intéressant d'entendre les autres.
Merci, je trouve ça remarquable, votre association. Je trouve qu'elle devrait exister partout, hein, dans tous les quartiers.
Merci.
Si. On va sourire encore, puisqu'on va parler du sourire d'automne. Très joli nom pour une association.
Oui, bah écoutez, avec l'âge, on garde le sourire. Donc pourquoi pas à la retraite.
Oui, alors justement, pouvez-vous nous dire un petit peu quel est l'objet de cette
association? Alors l'objet de l'association, c'est un club de retraités. Qui est à la maison de quartier rue Marcel Monet, c'est ça. Hein. Ça fait une soixantaine d'années que ce club existe, donc c'est pas tout jeune. Et ce club permet aux retraités du quartier, voire un peu plus loin, de pouvoir passer des bons moments, des activités, de faire de la bolade, de jouer aux cartes, de jouer à la pétanque, de jouer au palais. Et de passer des bons moments conviviaux entre retraités, surtout de sortir de chez soi.
Hein. Très
beaucoup
important.
De retraités sont seuls à la maison, et ça leur permet donc de venir rencontrer du monde. On discute de tout et de rien, vous savez ce que c'est, et on boit un petit verre, et puis on joue, et c'est très convivial, et les gens qui partent en fin d'après-midi sont très contents de leur après-midi, puisque ça leur a changé leur situation, leur vie normale. Nous avons en même temps des concours, on fait des concours, bien entendu, des concours de palais, des concours de bolotte. Là, on met en place à nouveau des concours de tarot. On fait 4 repas par année à thème, et puis on fait une sortie au mois de septembre, on part la journée visiter, faire du bateau, des choses comme ça. Donc
c'est bien, c'est vrai. Et vous vous trouvez où? Vous avez un local particulier?
Oui, nous sommes à la maison de quartier juste à côté, Marcel Monet,
oui,
voilà.
Oui.
Et la maison de quartier nous met 2 après-midi disponibles, mardi après-midi et le vendredi après-midi.
Quels sont pour vous les principaux défis liés à l'isolement des seniors aujourd'hui?
On voit bien qu'il y a beaucoup de personnes veuves. Donc ces gens sont souvent isolés. Bien sûr, c'est des gens qui ont de la famille, mais des fois ils ont des familles qui sont partout en France, donc pas forcément à côté de chez eux. Donc c'est l'occasion de venir, de rencontrer du monde, vous voyez, de passer un après-midi, de discuter, principalement.
Et est-ce que par hasard, vous avez quand même parfois des rencontres avec des plus jeunes ?
Alors, c'est un club de retraités. Donc, les statuts nous permettent d'avoir des gens à partir de 60 ans, voire en pré-retraite. Donc, on a effectivement quelques personnes dans les 60 ans, mais c'est pas la majorité.
Oui,
la majorité en 70, 80, notre doyen a 98 ans.
Ah oui.
En pleine forme,
quelqu'un qui joue. Et vos activités ont lieu la journée, donc.
Ont lieu la journée. Et puis, oui. C'est un club de retraités, si vous voulez.
Voilà, exactement.
Et puis, en même temps, on a moins de jeunes. J'entends jeunes 60, 70 ans. C'est parce que, à notre époque, les personnes qui partent à la retraite ont d'innombrables associations où ils peuvent faire des choses.
Et puis ils voyagent, marcher, quand ils peuvent marcher.
Ils voyagent, les clubs sportifs. Vous voyez, le club tel qu'on connaît nous, il existe depuis 60 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas tellement d'associations pour occuper les gens. Donc on avait énormément de bombes. On est passé à 200, il y avait 200 personnes. Et vous voyez, on est rendu à 82. Et le Covid nous a fait énormément mal. J'imagine. On a perdu 30% des adhérents. Après le Covid, qui ne sont plus revenus.
Et ben pour conclure, on peut peut-être faire un appel justement.
Bien sûr, toutes les personnes du coin qui sont retraitées et qui veulent passer des moments conviviaux, ils viennent à Marcel Menet. D'ailleurs, j'ai vu des gens, deux personnes tout à l'heure, deux dames là, qui seraient intéressées. Donc, je leur ai donné les coordonnées.
Voilà, très bien.
Ils viendront et on fera le plaisir de les recevoir. Sans problème.
Alors, il y a un troisième monsieur qui est arrivé. Alors, pouvez-vous nous vous présenter ? Parce qu'on ne m'a pas prévenu de votre arrivée.
Oui, donc je suis M. Falampin.
Vous allez bien dans le micro ?
Oui, je suis M. Falampin. Bon, j'ai travaillé longtemps à l'ambassade des États-Unis à Paris. Donc,
oui.
C'est pour ça que j'ai amené des archives pour en faire participer le maximum de gens. Hein, bon, depuis que je suis arrivé, j'ai déjà une quinzaine de personnes qui sont venues voir toutes mes archives, en vérité. Ça concerne la partie 64-69, en vérité, avec le premier pas sur la Lune pour les Américains.
Oui,
j'ai le salon du Bourget en 69 avec pas mal de photos. J'ai des photos sur le débarquement de 44 aussi. Donc j'ai amené tout ça. Et puis une autre passion que j'ai, c'est j'ai fait 5 gros albums sur tous les monuments de la ville d'Angers, avec beaucoup de recherches, de choses anodines, donc que je mets aussi à la disposition des gens qui veulent venir voir ces
catalogues. Donc vous étiez en pleine période du Watergate.
Oui. Alors j'ai des photos aussi de Gaulle avec Nixon à Paris, des choses comme ça.
Oui.
Bon, mais des choses que les gens n'ont pas. Pas particulièrement gardé, si vous voulez. C'est des archives un peu secrètes que j'avais aussi.
Bien sûr, ouais, j'imagine. Oui. Et quelles sont. Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir vraiment très très parlant ?
Le souvenir, si. Bon, j'ai eu. Mon épouse, on était fraîchement mariés. Quand il y a eu la guerre des six jours du Golfe, mon patron, Monsieur Ferranzi, qui était le haut responsable de l'US en France, m'a demandé si elle voulait prendre quelques jours de vacances, une huitaine de jours. Ben, j'ai dit pourquoi. Il me dit ben, en vérité qu'on a un gros problème, c'est qu'on a besoin de vous 24 heures sur 24 pendant une huitaine de jours. Ben, j'ai dit bon, d'accord. Je l'ai donc descendu à Chavagnes-les-Eaux. Je suis remonté en catastrophe à Paris. Et 8 jours après, je venais la rechercher et la guerre était finie. mais bon, ils étaient vraiment très au courant par les informations que j'avais. Je savais qu'elle ne durerait pas très longtemps, cette guerre-là. Je ne peux pas en dire autant pour celle qui est actuellement. Hein.
Oui, exactement. Non. Oui, tout à fait. Et vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes qui vous ont marqué ?
Oui, quelques personnalités, oui.
Oui, une ou deux, vous pouvez citer un petit peu, si c'est possible.
Bah, j'ai rencontré Nixon, j'ai rencontré Kissinger.
Oui, Kissinger, non, peut-être.
Bormann.
Et en France, Bormann, vous étiez
je l'ai vu, quand il est passé à Paris, mais alors vraiment.
Et en France, vous étiez en relation un peu avec des membres du gouvernement aussi, non?
J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à l'Élysée, ça marque aussi, c'est des choses qui sont
ça va marquer, parce que ça vous semble habituel pour vous, mais pour les autres personnes, ça me semble extraordinaire.
Oui.
Oh. Tout à fait, oui.
Aussi, mais bon, là c'est pareil. Je travaillais à l'hôtel Talleyrand, et de l'autre côté de la place de la Concorde. De là, on passe en dessous de comment que s'appelle, du ministère de la Marine. Et on a un tunnel qui nous reliait régulièrement à l'ambassade. Et quand il y avait des grosses manifestations pour bloquer, parce qu'avec la guerre du Vietnam, c'est vrai qu'il y avait des manifestations de temps en temps, on utilisait tous ces tunnels-là, et on sortait soit après l'ambassade d'Angleterre, qui était entre l'ambassade des États-Unis et l'Élysée, on avait encore des petits tunnels par là, et on sortait très discrètement par ces...
Moi, je vais proposer à monsieur Michel Bouillet, qui s'occupe de l'association de Thompson, à ce qu'il propose, à ce qu'il y ait un musée pour tous vos documents sur le site de Thompson, ce serait pas mal. Ce serait une idée.
Oui, j'ai pas mal de documents, c'est vrai.
Mais merci en tout cas, merci à tous d'être venus pour cette entrevue et puis bonne journée. On retrouve de nouveau devant une autre personne qui donc est d'origine congolaise. On va parler de son pays, mais peut-être aussi avant, peut-être vous présenter au niveau de votre activité.
Oui, bonjour. Je suis Yavich Lemba, médiateur social à la régie du quartier d'Angers. dans le quartier Montplaisir.
D'accord, donc vous travaillez avec les personnes que j'ai reçues tout à l'heure, l'énergie de quartier. Ouais. D'accord, donc vous faites partie des 180 personnes,
c'est ça.
Vous faites partie de cette association, enfin association,
oui,
de ce mouvement. Donc, vous savez combien de temps vous êtes venu en France ?
Je suis arrivé en France en 2022,
oui,
et je suis réfugié.
D'accord, donc vous êtes de quelle partie du Congo ? Parce que le Congo est...
Je suis du Congo-Brazzaville, donc...
Congo-Brazzaville, ouais. Oui. Oui, de l'ancienne capitale.
L'ancienne capitale française, oui.
Exactement. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de ce qui reste aujourd'hui des traditions congolaises ?
La tradition congolaise, aujourd'hui, il reste quoi ? On a toujours des gens qui prient des ancêtres, comme l'église, comme les Ngunza, qui ont toujours gardé cette culture-là. Et on a aussi cette notion de la sape. C'est vrai qu'on a... On a reçu des colons, mais on a laissé cette tradition-là de la sape, du vêtement, du costume, mm-hmm, qui est devenu un patrimoine. Et surtout de la musique aussi, parce que la rumba, c'est...
J'allais en parler de la musique.
De la rumba, parce que oui, on est tous musiciens au Congo, même si on fait pas la musique, mais on a toujours cette culture de la musique. On aime bien la musique, on aime bien danser.
Bien sûr, oui, oui. Ajoutons, j'allais justement vous demander quel rôle jouait la musique dans votre vie quotidienne. Donc, on a voulu un peu répondre à la question. Et pouvez-vous dire, est-ce que il y a toujours, même en France, parce que là-bas, je sais qu'il y en a, des grandes fêtes pour des cérémonies comme les mariages, des choses comme ça?
Oui, on a la dot, c'est une grande fête.
Oui.
Où, avant de passer au mariage, il y a la dot. Donc, le mari, il va, c'est la famille de la femme, ramener des vivres, du vin, de la cola, de plein de choses, des bœufs, des moutons, pour demander la main au père de la femme.
D'accord, ça restez là-dessus.
C'est, ouais, c'est vraiment une grande fête, vraiment une grande fête.
Et la communauté congolaise est importante sur Angers ?
Oui, c'est une grande communauté à Angers, on est nombreux, il y a plein d'associations.
Mm-hmm.
D'ailleurs, moi-même aussi, je suis président d'une association qui est à 4.9 Event. Donc, je fais le lien entre des artistes congolais et des producteurs en France pour essayer de les faire amener afin de jouer les spectacles.
Et vous arrivez à garder justement une communauté intergénérationnelle ?
Oui, il y a plusieurs générations, il y a ceux qui sont là depuis 50 ans et nous qui arrivons, et il y a nos parents aussi qui sont là.
Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Congo et la cuisine, pouvez-vous nous parler un peu de la cuisine et des habitudes alimentaires ?
Les habitudes alimentaires, on mange beaucoup gras. Donc, où on a le sakasaka qui est fait du manioc, on a l'accompagnement qui est le manioc. Donc, il y a le sakasaka qui est fait du manioc et l'accompagnement qui est le manioc lui-même, les tubercules. On a du mouton qu'on mange tout le temps, qu'on appelle tabac. On a plein de fruits sauvages qu'on appelle en lingala, les malombo, les tondolo. Il y a aussi le safou. Il y a la papaye qu'on aime bien aussi.
Je connais la papaye.
Ouais, la papaye. On a aussi le bambou qui est un fruit très sauvage qui pousse dans la nature. Après avoir mangé, ça devient comme du chewing-gum. Donc on n'a pas besoin de mâcher du chewing-gum après avoir mangé de ce fruit-là.
Et si on veut être complet, quel type d'artisanat sont les plus représentatifs du pays ?
Oui, on a plein de tableaux, on a aussi c'est plus de lecture. Donc plein de tableaux, des statues, il y en a plein. On a aussi des sports congolais comme le Nzango, qui est pratiqué par les femmes. Et on aime bien aussi le football et l'handball.
Qui n'aime pas le football, hein ? Et dernière question, qu'est-ce qui surprend le plus les visiteurs qui viennent au Congo ?
Les visiteurs, quand ils arrivent au Congo, parce que déjà on a le deuxième fleuve le plus profond et le plus puissant au monde, qui est le fleuve Congo.
Ouais.
On a la sape, donc elle est tout le temps les défilés où il y a une avenue qui s'appelle l'avenue Machoa, où il y a vraiment chaque dimanche il y a un défilé, il y a plein de sapeurs qui achètent des vêtements de marque pour venir défiler sur cette avenue. On a aussi du Mwana Foot, qu'on appelle le foot de la rue. Avec des petits poteaux, on joue torse nu, pieds nus, sans basket, avec des parents aussi, avec des jeunes. Et la musique.
On vient à la musique. La musique est toujours là.
La musique est toujours là. Toujours la musique.
Très bien.
Toujours la musique.
On va aller un petit peu plus au nord, hein, puisque apparemment on va aller au Maroc après.
Oui.
Si j'ai bien compris.
Peut-être, oui.
Hein, je crois qu'on passe au Maroc maintenant. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes d'origine marocaine.
Oui, je suis marocaine.
Parlez bien dans le micro, je ne vous entends pas.
D'accord.
Vous êtes originaire de quel coin du Maroc ?
Fès.
Fès, ah oui, une des belles villes, les villes princières.
Oui, c'est une ville très ancienne.
Et ça fait combien de temps que vous êtes en France?
2012, oui.
2012, oui, d'accord.
14 ans à peu près.
D'accord, oui.
14 ans, 15 ans. Très bien.
Donc, je suppose que vous retournez assez souvent là-bas au Maroc. Vous avez encore de la famille?
Oui.
Oui, ma. Parlez bien dans le micro. Montez plus, voilà. Oui.
D'accord. Toute ma famille est au Maroc.
Et toi au Maroc, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire pour ceux qui ne connaîtraient pas le Maroc? Je le connais un peu, mais surtout pour les auditeurs. Quelles sont les traditions qui restent encore un peu là-bas au Maroc, qui persistent?
Le Maroc, comme il dit le monsieur congolais, il dit le mariage. On a, c'est presque les mêmes traditions, la dot, demande de mariage, les grandes fêtes. Peut-être elle dure 7 jours, beaucoup des étapes, beaucoup des étapes pour le mariage. Et aussi, on a la fantaisie, qui c'est sport et culturel.
Et la musique et la danse aussi.
Oui, la musique et la danse, ça c'est... Chaque partie du Maroc, il a...
Oui, ses spécificités, ouais, tout à fait. Je connais un petit peu le Maroc,
oui.
Mais je ne connais pas encore Fès.
Oui, j'ai 2 ans, c'est l'échanger, mais
oui,
la partie de Medina et tout ça, il garde toujours le charme historique. Ça, c'est
oui, tout toujours. À fait. Hein. Et une chose que les Français connaissent quand même, s'ils sont jamais allés au Maroc, c'est la gastronomie.
Oui.
Hein, oui. Qui est vraiment délicieuse.
Oui.
Pouvez-vous en dire un peu plus sur les plats les plus typiques?
Les plats très, très traditionnels et connus dans tout le monde, c'est le couscous.
Bien
le couscous
sûr.
Couscous marocain qu'on a préparé surtout le vendredi. Ouais.
Les tagines.
Oui, les tagines aussi. On a fait salé, sucré, mélangé aussi. Et il y a pastilla, qui a sucré, soit salé avec des fruits de mer, soit sucré.
Et puis il y a un dessert où je craque dessus chaque fois, il y a les cornes de gazelle.
Oui, j'ai fait un petit peu aujourd'hui, on a un petit peu des gâteaux. Et de,
c'est délicieux. Aussi, hein?
Oui.
Tout à fait. Et puis votre voisin congolais parlait du football, mais je crois que le football au Maroc est très important aussi.
Oui, hein? Le football au Maroc, c'est...
Ouais,
c'est
voilà. Vraiment... Et puis la fête aussi, hein? On sait faire la fête aussi au Maroc.
Oui.
Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez parler aussi un peu des types d'artisanat vraiment très spécifiques au Maroc?
L'artisanat, on utilise surtout l'artisanat maintenant à la main, qui commence à disparaître petit à petit. Et je ramène quelques trucs aujourd'hui, faits à la main aussi.
Ah oui.
Les taksheta et les draps aussi qu'on a fait à la main.
Et même question tout à l'heure, pour... les touristes qui viennent au Maroc, qui ne connaissent pas le Maroc la première fois, qu'est-ce qui va le plus les surprendre? Alors vous allez peut-être me dire, selon les régions, mais...
Selon les régions, surtout la gastronomie, les repas, les plats, etc.
Oui.
Et aussi le savoir-faire à la main.
Tout à fait.
On fait aussi des sacs à la main et tout ça. Et aussi le cuir. On a aussi à Fès, qui a fait beaucoup les vestes, les jaquettes, les sacs, tout à la main.
Et je ne dirais pas, parce que je n'aime pas cette ville, mais qu'il n'y a pas que Marrakech, que beaucoup vont à Marrakech. C'est magnifique, mais il y a tellement d'autres choses différentes aussi à voir, à découvrir. Oui. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il faut aller aussi au moins une fois dans le désert.
Ça dépend, mais moi j'aime bien partir aussi un mois, 2 mois par année.
Oui, bien sûr. Tout à fait. Bon, moi aussi, je suis déjà parti. Hein.
Oui, j'aime bien.
Merci en tout cas de nous faire rêver, de nous faire participer. Et puis je crois que maintenant on va partir dans un autre pays, un autre continent, avec une autre culture. Donc la culture Hmong. Alors, je crois, Vincent, on s'est déjà rencontré tout à l'heure, que la culture Hmong, en fait, elle dépend de plusieurs pays. Vous êtes plutôt Vietnam, je crois, hein, c'est ça?
Oui, c'est vrai qu'on est un peu partout. Alors, déjà, les Hmong, est-ce que tu as une idée de ce que c'est?
Je dirais que c'est un peuple, mais je ne peux pas en dire plus.
Oui, effectivement, les Hmong, c'est un peuple. C'est vrai qu'au... Comment dire, nos ancêtres, voilà, viennent des hautes montagnes de Chine, en fait. Sud de la Chine, en fait. Et c'est vrai que on a fui à l'époque la Chine pour se retrouver après en Birmanie et puis dans les montagnes du Laos. On a fui la Chine parce que c'est vrai que le peuple chinois à l'époque, il y a très très longtemps, voulait conquérir les terrains. Et comme en fait, nous on est plus un peuple neutre pacifique, du coup on voulait pas la guerre, donc on a fui. Okay. Voilà. Et on est arrivé donc au Laos, donc dans les montagnes. Donc c'est là où mon grand-père est né et où mon père aussi est né, dans les montagnes. Suite à ça, en fait, les Hmongs, donc il y a une grande histoire aussi avec le peuple français. Donc si je te parle de la guerre d'Indochine, est-ce que
ah oui, forcément, oui.
Voilà. Donc les Hmongs ont aidé dans les années 50, pendant cette guerre d'Indochine, les Français. Donc malheureusement, les Français ont perdu la guerre et sont partis. Pas longtemps après, il y a eu la guerre du Vietnam.
Voilà.
Donc les Américains sont arrivés, ils ont aussi demandé de l'aide aux Hmongs. Parce que les Hmongs, en fait, connaissaient très bien, en fait, leur forêt, en fait. Parce que c'était des montagnes, c'était très boisé avec beaucoup de forêts. Et en fait, c'était pour mieux espionner, on va dire, la guerre du Vietnam, donc à l'époque, les Vietnamiens.
Oui.
Et donc, ils ont perdu la guerre, donc ils sont partis. Ils ont fui, donc, en fait, les Américains ont quitté le pays. Et les Hmongs se sont retrouvés livrés à eux-mêmes.
Donc, forcément, un peu mal vu par les autres.
C'est ça, ouais, effectivement mal vu par les communistes en fait. Et donc en fait, les communistes, ont évolué en fait dans ces pays et sont arrivés jusqu'au Laos. Et donc les Hmongs ont fui en fait le communiste en fait. Et mes parents à ce moment-là ont fui donc le Laos pour se retrouver. Donc ils ont fui dans les montagnes, ils ont traversé le grand fleuve, le Mékong, qui se trouve près de la Thaïlande, ouais, à la nage, sous les tirs, des communistes.
Les communistes, ouais.
Et donc ma mère, qui était enceinte de moi, et de ma sœur jumelle, a traversé donc à la nage le Mékong, avec mon père. Bien sûr, derrière, il y a eu beaucoup de pertes, hein. Mon père a perdu tous ses frères et sœurs. Et pareil, mon grand-père a perdu aussi sa femme. Donc, et bien sûr, ses enfants. Il restait plus que mon grand-père, mon père et une tante. Et donc, je suis né donc moi dans le camp de réfugiés, pas longtemps après qu'on soit arrivé. Et suite à ça, moi je suis arrivé donc en France j'avais 6 mois, donc en 1980. Ma mère est morte au pays aussi, parce que dans les camps de réfugiés, c'était pas forcément très très propre,
l'hygiène,
il y avait, c'était surpeuplé, il y avait beaucoup de personnes qu'on fuit, parce qu'il n'y avait pas que les Hmongs, il y avait aussi tous les autres pays qu'on fuit en fait cette guerre. Et donc on s'est retrouvé en France et en 80, donc et puis j'ai grandi donc dans la région parisienne et après on est arrivé ici à Angers.
D'accord. Et alors, malgré toute cette tragédie, est-ce que vous êtes retourné quand même dans le pays ?
Alors moi, personnellement, non. Mes parents, oui. En tout cas, mon père, donc, il s'est remarié donc, avec ma mère. Donc, ils ont été plusieurs fois pour aller se recueillir quand même, pour essayer de revoir plus ou moins les endroits où ils avaient grandi. Parce que c'était il y a déjà plusieurs années. Et aujourd'hui, ils y sont pas retournés depuis un très 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 long moment. Voilà. C'est vrai que j'ai cette je suis très rattaché à mes origines, à ma culture. Mais c'est vrai que comme j'ai grandi en France,
oui.
Voilà, aller dans un pays où il y a eu la guerre, et puis je sais pas, pour moi en fait une nécessité en fait de retourner là-bas quoi.
Mais voilà. C'est plus peut-être qu'il y a en vous encore quelque chose de la culture Hmong.
Oui, 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 bien sûr. Elle est toujours ancrée en moi, et puis même au travers mon père, mon grand-père, qui n'est plus là. Mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose que j'ai toujours eu en moi, et puis que j'aime avec fierté le présentant ici, au petit village d'Échenay.
Très bien. Et est-ce que dans Angers, vous avez rencontré d'autres personnes issues de la même culture?
Oui, oui, complètement. C'est vrai que après toutes ces guerres, beaucoup de Hmongs ont fui donc le pays, donc beaucoup sont arrivés en France, beaucoup en Guyane française, donc tous les produits qui arrivent de Guyane sont faits par les agriculteurs Hmongs en fait, que ce soit des bananes ou des fruits exotiques qui arrivent de là-bas, de la Guyane, parce que les Hmongs, en fait, le peuple, enfin l'État français à cette époque-là, donc comme les Français ont aidé les Hmongs à cette époque-là pendant la guerre d'Indochine, les Français l'ont prêté, enfin donné, on va dire, un pays, donc c'était la Guyane française. Et donc beaucoup de, j'ai quelques cousins encore là-bas, ils sont arrivés là-bas et ils ont cultivé en fait toute cette savane, parce que c'était que de la savane, c'était que des animaux sauvages. Donc en fait du coup ils sont restés pendant un an à faire en sorte que le terrain soit viable pour y vivre. Et aujourd'hui on a le plus grand village en fait de Guyane qui est Cacao, où en fait il y a des grands marchés, des nouvel an, des fêtes en fait qui se trouvent là-bas. Grâce aussi aux Hmongs et bien sûr aux gens qui vivent là-bas. Et en France, on en a aussi. On a beaucoup de familles qui sont aussi en France. D'accord. Notamment à Angers aussi. Il y a beaucoup de familles sur Angers et aux alentours. Voilà. Mais en petite minorité quand même. Quand je dis beaucoup, on n'est pas beaucoup non plus aussi.
Et au niveau de la gastronomie, est-ce qu'il y a des choses spécifiques de...
Oui, il y a des petites choses spécifiques. Mais c'est vrai qu'on mélange avec beaucoup de cuisines vietnamiennes, laotiennes, thaïlandaises et même chinoises. Donc en fait, on a des spécialités, ouais. Mais tout se rapproche au niveau d'accord. cuisine asiatique, quoi. Que ce soit des rouleaux de printemps, des nems,
oui, bien sûr,
voilà, toutes ces choses qu'on connaît, quoi, en Asie.
Et qu'est-ce que vous pensez avoir transmis à votre adorable petite fille qui est pas loin de cette culture?
Un petit peu de ma langue, un petit peu aussi de mes origines, parce que je leur parle beaucoup aussi de mon histoire. Voilà, je traverse aussi, je montre aussi mon histoire à mes enfants pour qu'ils sachent réellement en fait. Qui je suis et puis comment j'ai grandi, parce que bon, elles l'ont aussi en elles. Et oui, j'ai quatre enfants. Donc,
quatre enfants, ouais, oui.
Le plus grand, il a 20 ans, donc il connaît toute l'histoire. Et puis bon, la petite dernière, c'est celle-là, celle qui a 8 ans. Et donc en fait, oui, c'est important aussi pour moi de leur inculquer aussi mes origines et puis aussi vivre aussi pleinement ici en France, quoi.
Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Et puis encore bravo pour l'organisation de cette journée.
Merci.
Qui semble vraiment très bien partie et qui va encore continuer encore quelques heures.
Je te remercie.
Merci. Ça va être terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une suite d'interviews donc de cette journée magnifique.
With your privilege, you really need to reflect and then redirect. Say losing people that you love just to make a step. Was it ever worth it or only time will tell? Still stacking up my music on the vinyl shelf. Every tune that me put out kinda help me mental health.
Sometimes you have to feel pain to understand. You don't always have to be strong to be a man. Sometimes you have to break down just to build again. You always see your real self when you need the edge. But no one's perfect, don't be scared of the reflection. You never judge yourself by your next man. Grass on the other side, not always greener. Just keep it moving in the right direction. Say give up everything just to get it. Now it feel bittersweet. Did you really win the race if nobody see? Yeah. Life's about love and making memories. And many, many things. You can have all the money in the world, but still not have anything. Credit in your bank don't give you credibility. The perfect way to life, there's no recipe. No, no, no. Heading to the top, but nobody there. It's a lonely road, I hope you come prepared. To focus on the goal, now you lost your team. Every step you take, another casualty. It's messed up because you could have wronged all of them. My family is family, I be represent. Yes, you have to be gentle to be gentlemen. But we know we're still big and strong like an elephant. Yes, me never sell me soul for no money, no. Hollywood got them rappers moving funny, no. Can you really call it sharing when I want to share? Said one and only one can never make a pair. See if you ever want to want it so bad. When you get it all you got was a lesson. Reaction of a reaction. Sometimes what you need is not what you want. Say gave up everything just to get it. Now it feel bittersweet. Did you really win the race if nobody see? Life's about love and making memories. And many, many things. You can have all the money in the world, but still not have anything. Credit in your bank don't give you credibility. The perfect way of life don't have a recipe. No, no, no.
What do you mean like rubber dub? Reggae, yeah. Rubber dub.
You gotta treat my sister nice, yeah, yeah. I heard you kick her in her bum, even though she's still your baby. But that's not the way to treat a lady. If she is wrong, try show her the right. No need to quarrel, no need to make a fight, because the daughters take a little longer to sight of the father. Yeah, I said the daughters take a little longer to do the works of Jaja. Never let her go astray. Try show her the right way. Yeah. I heard you kick her in her bum, even though she's still your baby. But that's not the way to treat your lady. If she is wrong, try show her the right. No need to quarrel, no need to make a fight, because the daughters take a little longer to sight of the father. Yeah, said the daughters take a little longer to do the works of Jaja.